Michel Maxime Guerre. Nous allons parler aujourd'hui de sauver la planète. Et je vais commencer par une brève, mais pas si brève que ça, vous m'arrêtez si je suis trop longue, de présentation de chacun des auteurs et de M. Bizer, qui lui-même est très actif, mais n'a pas écrit de livre. Voilà.
Trop actif. Oui, il était très actif dans l'existence de ce livre.
Voilà, il est très actif dans l'existence du livre de Corinne Sombrin. Alors, je vais commencer par Michel Maxime Guerre. Vous êtes au bénéfice d'une double formation en journalisme et en sociologie, couronnée par un master en sociologie à l'Université de Neuchâtel, obtenu en 81. Vous avez été journaliste en 81 et 93, notamment pour l'Hebdo, Construire, et vous avez collaboré à de nombreuses publications, en particulier pour Le Temps stratégique. Vous me coupez si c'est juste. Lobbyiste infatigable.
Je confirme.
Pour le développement durable, ainsi que pour les relations nord-sud plus équitables. Vous avez travaillé de 1993 à 2002 à l'œuvre d'entraide protestante, pas pour le prochain. Vous travaillez aujourd'hui à l'Alliance Sud, la communauté de travail des entraides suisses, des œuvres d'entraide suisses. Votre cheminement spirituel passe par une révolte contre l'institution ecclésiastique et une année sabbatique en Inde pour la pratique du zen, puis par la découverte du christianisme orthodoxe. Vous fondez en 2004 le réseau Trilogie pour mettre en dialogue les traditions spirituelles et les grands enjeux de notre temps. Depuis 2005, vous êtes membre du comité de la rédaction de La Chair et du Souffle, une revue d'anthropologie de spiritualité.
Qui a cessé de paraître cette année.
Voilà. Ah, vous étiez. Vous avez également créé et dirigé les éditions Le Sel de la Terre, une collection de spiritualité orthodoxe contemporaine publiée par les éditions du CERF. Enfin, depuis 2014, vous co-dirigez avec Philippe Roch la collection Fondation écologique aux éditions Labor et Phil. À ce jour, vous êtes l'auteur de 3 ouvrages, Terre comme soi-même, La Terre comme soi-même, Prier 15 jours avec Sylvain, Soigner l'esprit, guérir la terre, que vous venez de publier. Soigner l'esprit, guérir la terre nous fait découvrir un mouvement clé et très peu connu en Europe continentale, l'éco-psychologie. Celle-ci estime que pour répondre en profondeur de la crise environnementale, l'écologie et la psychologie ont besoin l'une de l'autre. Cette nouvelle discipline se propose de repenser l'approche du traitement de notre main, tout en apportant des réponses nouvelles à la sauvegarde de l'environnement. Il en résulte des thérapies novatrices, prometteuses, mais qui ne peuvent trouver de sens sans repenser complètement l'éducation de nos enfants. C'est juste ?
C'est juste.
Ça va. Parfait. Maintenant, je vais présenter Philippe Roch. Philippe Roch, vous êtes titulaire d'un doctorat en biochimie à l'Université de Genève. Vous avez été directeur général du WWF en Suisse, de 1977 à 1992, puis directeur de l'Office fédéral de l'environnement de 1992 à 2005. Vous êtes aujourd'hui consultant indépendant. Vos engagements sur les plans national et international ont été et sont encore très nombreux, que ce soit pour la défense du milieu naturel, la biodiversité, le climat, les déchets, les produits chimiques ou l'eau. Sur le plan politique, vous avez été conseiller municipal de la commune de Lancy sous la bannière démocrate chrétienne, puis député au Grand Conseil de Genevois. En 2008, vous avez reçu le titre de docteur honoris causa de l'Université de Lausanne pour, je cite, « votre apport à la prise de conscience environnementale et au développement des connaissances en ce domaine en Suisse et à l'étranger pour votre humanité et votre non-conformiste éclairé. »
J'adore ce dernier truc.
Vous êtes l'auteur de 9 ouvrages jusqu'à ce jour, d'un dialogue avec Jean-Jacques Rousseau à la problématique des OGM, pardon. Chacun de vos livres est empreint d'un engagement fort et au service de l'équilibre de notre planète en incluant une dimension philosophique, spirituelle, mais aussi personnelle. Votre dernier livre a pour titre « Méditer dans la nature ». Cet ouvrage nous accompagne pour faciliter nos premiers pas de méditants dans la nature et nous propose de trouver nos propres repères pour découvrir en nous des réponses personnelles à tous les défis de la vie. La nature est un milieu privilégié pour pratiquer la méditation, car elle nous accueille, elle nous inspire, en nous offrant sa beauté, sa générosité, son calme et son assurance.
Oh, c'est super, non, merci. Ah bon ? Je me reconnais à peine.
Corinne Sombrin, la seule femme de cette table ronde, vous avez écrivain. Vous passez votre enfance en Afrique et à Ouagadougou.
Doudou, j'aime bien aussi.
Donc c'est au Burkina Faso. De retour en France, vous vous consacrez à des études de musicologie. Lauréate de concours nationaux et internationaux, vous obtenez à la bourse de l'Office franco-québécois pour la jeunesse et partez étudier à Montréal. En 1999, vous vous installez à Londres, où vous travaillez comme pianiste et compositrice. En marge, vous effectuez des reportages pour BBC World Service dans le cadre d'un programme sur les religions. En 2001, au cours d'un reportage en Mongolie, la chamane Balgir vous annonce que vous êtes vous-même chamane. Vous allez ainsi passer plusieurs mois par an à la frontière de la Sibérie auprès de Unketuya, merci. Le chaman de l'ethnie des Tsaktans. Qui vous transmettra ses connaissances. Après 8 années d'apprentissage, vous deviendrez la première occidentale à accéder au statut de Utkan. Terme mongol désignant les femmes ayant reçu le don. Puis la formation tradition chamanique. Vous avez écrit à ce sujet les esprits de la steppe. Parallèlement à vos activités, vous poursuivez un travail scientifique sur les états modifiés de la conscience, dont les résultats seront à l'origine du premier protocole de recherche sur la transe chamanique mongole étudiée par les neurosciences. En 2005, vous partez au Nouveau-Mexique, rencontrez Arline Géronimo, médecin chaman et arrière-petit-fils du célèbre guerrier Apache. De cette complicité va naître l'idée du livre « Sur les pas de Géronimo ». En 2008, vous vous rendez en Alaska à la rencontre des Indiens Athabascal, ancêtres des Apaches et descendants supposés des Mongols. Vous découvrez un peuple engagé dans un travail remarquable pour la préservation de l'environnement et dont certaines traditions ancestrales sembleraient effectivement pouvoir corroborer la théorie d'une relation de descendance avec le peuple mongol. Votre parcours et vos expériences sont retracés dans 7 ouvrages, dont certains traduits en plusieurs langues. Passionné par les mondes autochtones et le dialogue interculturel, vous signez aujourd'hui avec Almir Narayamasoga un livre intitulé « Sauver la planète ». « Sauver la planète » retrace l'histoire du peuple brésilien sur lui et le destin d'un homme qui s'est impliqué contre la catastrophe écologique qui menace l'humanité. Almir Narayamasoga s'est engagé dans la défense de ses terres ancestrales, réussissant à chasser colons et bûcherons qui mettront sa tête à prix. Il se réfugie alors aux États-Unis, où il va rencontrer les dirigeants de Google pour leur présenter son projet, utiliser Google Earth, pour montrer la détérioration galopante de la forêt amazonienne. Depuis, Almir Narayamasoga signe le Globe pour promouvoir sa proposition de taxe carbone. Je suis mise à rude épreuve. Hein.
Oui, c'est magnifique, c'est très intéressant.
Soyez indulgents. Thomas Pizer, vous êtes président et cofondateur de l'association Aqua Verde, une association basée en Suisse créée en 2002 qui a pour but de soutenir l'action des peuples indigènes amazoniens dans leur action de protection de la forêt primaire encore sur pied. Grâce à des actions concrètes, vous avez développé une solide relation de la confiance avec plusieurs tribus, des tribus importantes de l'Amazonie brésilienne. Vous avez notamment joué un rôle majeur dans la création de structures et de mécanismes de financement pour la protection et le reboisement de la forêt tropicale, en particulier sur les terres sur lui. Le dépaysement n'était pas de nature à vous effrayer, puisque vous avez œuvré en tant que délégué du Comité international de la Croix-Rouge, le CICR, dans des pays tels que l'Iran, les Philippines, le Cambodge, le Sri Lanka, le Koweït et la Sierra Leone. photographe de formation, vous dirigez une entreprise de design et travaillez également comme consultant pour une fondation des Nations Unies, ainsi que pour le mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Alors j'aimerais démarrer cette table ronde après cette présentation assez complète, mais que je pensais être importante. L'homme a-t-il vraiment, véritablement conscience de l'état de la planète? Et pour lancer le débat, j'appelle Thomas Pézer.
Merci. Tac. Bonjour, merci. Est-ce qu'il faut mettre en marche?
Celui-là fonctionne. Voilà. Je vais me mettre debout comme ça, je peux voir tout le monde. On est un peu bas ici, au bout de la table. Bonjour à tous, à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être là. C'est vraiment un honneur pour moi, même si je ne suis pas un auteur, de pouvoir essayer de répondre à cette question.
Qui est laquelle?
L'homme a-t-il véritablement conscience de l'état de la planète?
Durant des années avec le CICR, j'ai été confronté à l'état de guerre permanent sur cette planète. En l'ayant quitté en 2000, est apparue la cause écologique en fait qui est venue avec les Indiens Surui qui m'ont vraiment demandé de l'aide dans nos pays pour faire connaître leur parole, la voix de la forêt.
C'est voix de la forêt.
Redonnez-moi la question, excusez-moi.
L'homme a-t-il véritablement conscience de l'état de la planète aujourd'hui?
Depuis cette année 2000 où j'ai commencé à œuvrer avec les souris, eh bien, je me suis vraiment rendu compte de l'évolution chez nous, de notre société en fait. Au début, on nous prenait pour des écologistes, des illuminés, etc. Et au fil, dans les 10-15 dernières années où nous avons œuvré, eh bien, nous avons vu, par exemple, un grand changement avec les entreprises, avec la société en général, qui s'intéresse de plus en plus et qui pose de plus en plus les questions justes. Alors, à ce niveau-là, je pense que cette prise de conscience, même si elle est lente, et on peut se demander... elle est suffisante, si elle ira assez rapidement pour nous permettre d'œuvrer et de parer aux grands défis auxquels nous faisons face aujourd'hui au niveau de l'écologie mondiale, on se pose vraiment la question de savoir si tout ce qu'on fait aujourd'hui bien servira à quelque chose. Moi, je pense que si, quelques petites gouttes que l'on fasse pour augmenter cette prise de conscience, eh bien, elle vaut la peine et on verra bien ce qu'on pourra avoir comme résultat dans le futur. Les Indiens Souris m'ont vraiment appris ça. Ils ont dit, le chef Souris m'a dit, je vais faire donner l'exemple avec mon peuple au monde entier de la manière dont nous devrions gérer la forêt et je vais le partager avec le monde, aidez-moi à le montrer parce que ça peut devenir une politique publique, par exemple au Brésil, ça peut aider le monde entier à prendre cette conscience et ainsi nous allons faire notre petit travail à nous, petit peuple du fin fond de l'Amazonie pour la planète. Voilà.
Alors, monsieur Michel-Maxime Guerre, vous aimeriez rebondir?
Bon, bonjour. Oui, peut-être sur ce point, je crois que là, il y a un apport assez intéressant des éco-psychologues. C'est-à-dire que, au fond, leur idée, c'est qu'il y a une différence entre le fait d'être informé des problèmes de la planète, des dégradations écologiques, et le fait d'en avoir vraiment conscience. Je crois qu'ils partent du principe, et on peut vraiment l'observer, qu'on a aujourd'hui une information très grande, très importante sur tous les maux dont souffre la Terre. On pourrait même dire que parfois on est surinformé par rapport à tous les dégâts, les dégradations écologiques. Mais la question, en fait, qu'on constate, c'est le décalage qu'il peut y avoir entre toute cette information et la réalité soit des mesures politiques, on le voit avec les sommets internationaux et puis avec les politiques des États, notamment dans la matière climatique, soit aussi avec l'insuffisance des changements de comportement des individus. Et là, il y a une vraie question qui est de savoir mais comment est-ce qu'on peut expliquer ce hiatus, comment est-ce qu'on peut expliquer ce décalage. Alors c'est vrai qu'il y a des facteurs extérieurs qui ont à voir, et c'est pas à négliger, mais qui ont à voir avec les grands acteurs de la mondialisation, hein, les luttes de pouvoir, les luttes d'intérêt, les égoïsmes des nations, les recherches de profit des grandes entreprises transnationales. Tout ça, c'est évidemment un point extrêmement important qui fait qu'on a de la peine à faire les pas qui conviendraient pour, en fait, sauvegarder la planète. Mais eux disent, sur un plan plus personnel, eh bien, il y a en réalité ce qu'on constate, c'est une forme de division intérieure. C'est-à-dire qu'au fond, l'information, ça vient, en fait, ça s'adresse à la tête, ça vient nourrir le mental, mais est-ce que véritablement cette information descend à l'intérieur de l'être pour venir toucher le cœur? C'est-à-dire, au fond, pour venir mettre le feu au cœur, et vous savez, le cœur embrasé, c'est ce qui donne le courage. Et ça, eh bien, leur réponse, c'est de dire, eh bien, non, là, il y a un véritable problème. Et au fond, on est d'autant moins touché, donc on a de la peine à se sentir vraiment concerné, parce que, d'une certaine manière, très souvent, l'homme occidental, eh bien, il vit comme déconnecté par rapport à la nature. La nature ne fait pas partie de notre être, et au fond, ce qui arrive à la nature, est-ce que véritablement, c'est quelque chose qui, en fait, nous touche en profondeur? Et puis après, ils disent, mais ça ne veut pas dire que les gens sont indifférents par rapport à ça. C'est-à-dire qu'en même temps, il peut aussi y avoir chez l'être humain des mécanismes de protection et de défense. On se défend par rapport à des sentiments ou des réalités qui sont trop douloureuses, par rapport auxquelles on se sent un peu impuissant et dépassé, ou par rapport à tous les sentiments que ça va entraîner, du genre découragement, impuissance, peur, qui sont évidemment des sentiments négatifs face auxquels on va se protéger. Et là aussi, la tendance va être un petit peu de dissocier, une forme de dissociation dans l'être, entre la partie mentale, intellectuelle, où on a conscience, on a beaucoup d'informations, on a les chiffres, et puis finalement, la partie émotionnelle. Donc tout le travail va être de comment, en fait, reconnecter et recréer cette unité de l'être pour pouvoir, en fait, à travers cette reconnexion, véritablement agir et passer à l'acte.
Alors, comme vous êtes debout, je vous laisse rester. Y a-t-il justement besoin d'un retour à la nature et expliquez-nous un petit peu, comme vous parlez, selon Jung.
Ah, alors d'accord, les deux questions. Alors, si vous voulez, l'idée sous-jacente, c'est que les éco-psychologues se sont beaucoup intéressés. Une des questions qui se sont posées, outre pourquoi est-ce que malgré toute l'information qu'on a, finalement, il y a un tel décalage avec nos actes et nos comportements. L'autre question qui se sont posées, c'est pourquoi, quelles sont les racines au fond, de la crise écologique, et pourquoi est-ce que l'être humain, si génial, si intelligent, s'obstine dans une forme d'inconscience et d'irresponsabilité à adopter des comportements qui sont vraiment très anti-écologiques. Et là, ils sont revenus à la racine de ça, essayer de voir quelle est l'origine, et ils arrivent, alors là je raccourcis évidemment, mais à la conclusion qu'il y a une déconnexion en profondeur entre l'être humain et la nature, qu'a un long passé historique, on peut revenir au néolithique, mais qu'est aussi quelque chose qui se reproduit à travers ce qu'on appelle l'ontogénèse, c'est-à-dire la croissance de l'être, puisque pour arriver à un être mature capable de relations équilibrées et harmonieuses avec la nature, eh bien, cet être mature devrait, et là je pense qu'il y a beaucoup à apprendre des populations et des peuples que vous défendez, passer par la matrice de la mère, puis la matrice de la nature pour arriver à la matrice sociale. Et on ne peut que constater que dans nos sociétés, au niveau de l'éducation, eh bien, la matrice de la nature est insuffisamment présente, voire totalement absente, d'où la création d'êtres assez immatures, incapables de relations vraiment harmonieuses avec la nature. Alors par rapport à Jung, eh bien, c'est vrai que les éco-psychologues, dans toute leur approche, pour notamment quelles sont les pistes possibles pour créer cette reconnexion entre l'être humain et la nature, eh bien, se sont beaucoup inspirés de Jung. Ils le considèrent un peu comme un proto-éco-psychologue. Alors c'est vrai que Jung n'a pas écrit dans le contexte que celui des éco-psychologues, c'est-à-dire celui d'une crise écologique majeure, mais lui-même a, en fait, à travers toute une série d'écrits, même s'il n'a pas fait un texte qui est une systématique des relations entre l'être humain et la nature, mais c'est extrêmement présent à travers toute son œuvre, et il a beaucoup exploré cette relation en profondeur entre l'être humain et la nature. Lui-même aimait beaucoup la nature. Si on lit son autobiographie, Ma vie, on voit que, eh bien, il y a plein de moments où il se sent dans une espèce de communion et de participation extrêmement profonde à la nature. Et lui a aussi justement constaté ce décalage, et il a aussi beaucoup travaillé à comment l'être humain peut se reconnecter à la nature. Et une des pistes pour lui, c'était de, vraiment de redescendre dans les profondeurs de l'être humain, ce qu'il appelle l'homme archaïque, et de montrer qu'au fond, les strates les plus profondes de la psyché humaine sont tissées de notre relation à la Terre. Elles sont vraiment de l'ordre alors animal, mais aussi de l'ordre de la Terre, et que, mais malheureusement, tout ça a été refoulé, tout ça est de l'ordre de l'inconscient, précisément, et d'où, à partir de Jung, cette idée très forte chez les éco-psychologues de l'existence d'un inconscient écologique, c'est-à-dire qu'en fait, nous portons en nous toute la mémoire de l'évolution, de la mémoire vivante de l'évolution de la Terre, et une des voies, précisément, pour nous reconnecter en profondeur avec la nature, c'est de redescendre à l'intérieur de nous et de réaliser ce que Jung appelle, c'est-à-dire en fait cette union entre la terre et le ciel, entre l'inconscient et la conscience.
Lors de son passage aussi, ça se sent bien.
Je peux m'asseoir ?
Oui, vous pouvez vous asseoir. Écrit de Monte Verita, entre autres. Thomas Pizer, est-ce que vous pouvez donner votre avis ? Je vous fais
revenir. Oui, tout à fait. Ce qui m'a. Cette relation que l'être humain et l'être humain dans une tribu comme celle des souris, qui, elle est très 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 présente. Nous avons la première chose que j'ai dû faire, c'est d'apprendre à les écouter et à essayer de saisir la relation qu'ils avaient avec leur forêt. Parce que quand ils sont venus vers moi, ils ont demandé, ils ont dit voilà. Nous voulons sauver notre tribu, notre culture, mais notre culture, elle va avec la forêt. Et donc, à ce niveau-là, je ne peux que constater exactement cette relation dont vous parliez, de l'être humain avec sa, au niveau fondamental, avec la forêt, avec son environnement. Chez nous, bien sûr, il semble qu'on ait perdu ça quelque part. Et moi, j'ai dû faire un gros effort pour arriver à comprendre déjà, pour pouvoir les écouter correctement. Quand ils me disaient, voilà, nous allons sauver notre culture, nous allons nous sauver, nous allons sauver notre forêt, et nous devons le montrer au monde entier, parce que ça, c'est le don que nous pouvons faire pour la planète. L'être humain doit arriver à ressaisir cette notion d'appartenance à son environnement. Et donc, j'ai appris petit à petit, en me baladant beaucoup dans la forêt, j'ai réappris cette relation qu'on peut avoir avec la forêt ici. Quand on va se balader dans la forêt, elle nous fait peur, il y a des tas d'inconscients collectifs aussi qu'on a par rapport à la nature. Récemment, j'ai été me balader dans les forêts près de Neuchâtel, qu'on considère sombres et pleines de vieilles histoires, etc. Et avec le chef Almir, qui lui m'a montré un arbre qui était en train de pleurer, et en effet des gouttes de sève sont sorties du tronc, et il m'a expliqué comment cet arbre, c'est un des plus grands arbres de la forêt de Neuchâtel, et bien cet arbre, il pleurait parce qu'il n'arrivait même plus à discuter, à transmettre ce qu'il voulait aux arbres qui étaient autour de lui, et il était en train de mourir. Et nous sommes tous restés là, les personnes qui étaient avec lui, épaté de voir que quelqu'un qui a une relation vraiment avec la nature, il vient ici et il arrive même avec notre nature, je dirais, un sapin, quelque chose qui n'existe pas chez eux, mais il arrive à avoir cette communion et à nous transmettre quelque chose dessus. Donc c'est un élément vraiment fondamental.
Oui. Je crois qu'on a perdu quelque chose dans nos sociétés, c'est notre relation de dépendance à la nature. On n'en est plus dépendant parce qu'aujourd'hui, la nourriture, elle est dans un supermarché. On n'a plus besoin d'aller chasser, on n'a plus besoin de tuer un animal pour se nourrir. Alors ça, ça a créé une espèce d'assurance, de multiplication d'ego qui fait qu'on est tout puissant. Et moi, quand je me balade dans la forêt chez les survies et qu'il faut aller chasser, ou qu'un petit peu je marche dans la forêt sans chaussures, eh ben, croyez-moi que je suis tout d'un coup beaucoup plus attentive à la forêt, parce que j'en suis dépendante. Tout d'un coup, c'est elle qui va me fournir de quoi vivre, de quoi me nourrir, de quoi survivre, et tout d'un coup, je deviens attentive. Et j'ai remarqué que ces Indiens, comme en Mongolie, pareil, quand on vit dans la steppe, on est attentif parce que notre vie en dépend. Donc je pense qu'une des pertes de cet intérêt
fait d'être relié à la nature vient de ce fonctionnement de société qui a fait de nous des dépendants du supermarché. Alors, un autre thème que j'aimerais aborder avec vous, en quoi la nature est-elle favorable à la méditation? Et pour ça, j'aimerais interroger Philippe Roch, car étrangère et familière.
Oui, ça marche pas.
J'arrête, Corinne. Ouais, merci beaucoup. Merci. Tout d'abord, tout petit mot, je baigne dans le bonheur. Parce qu'à vos toutes premières questions, ma première réponse aurait été de dire non. Parce que quand j'observe le monde tel qu'il est aujourd'hui, et notre monde à nous, occidental, je suis désespéré. Je dis, quand je vois les tendances, les priorités, mais prenez n'importe quel, prenez ce petit journal qu'on trouve partout. La moitié du journal, c'est que des conneries, excusez-moi. C'est que du superficiel. Acheter des trucs complètement bidons, et les personnes dont on parle sont ces people qui ont divorcé hier, remarié demain, après ça. C'est affreux, c'est quand même la moitié de l'information qu'on diffuse. Donc on est dans un monde désespérant, parce qu'il a complètement perdu les fondements qui ont fait la vie et qui ont fait la société. Et puis aujourd'hui, je baigne dans le bonheur, parce que autant dans le salon qu'ici, je rencontre des gens qui se posent ces questions, je rencontre des gens qui me disent « mais pour moi, c'est évident que la relation à la nature, c'est nécessaire, j'en ai besoin », quelqu'un m'a dit tout à l'heure, et puis quand je vous écoute les uns les autres, je dis « mais... » Il y a un tel espoir pour le monde, même si déjà nous sommes nombreux ici, eh bien c'est formidable. Et ça me donne beaucoup d'espoir qu'à travers la vie intérieure que vous avez évoquée, et puis cette relation profonde avec la nature, nous pouvons encore renverser cette folie de l'humanité qui court contre le mur. Alors la méditation, si j'y suis venu, c'est grâce à ma longue relation à la nature qui a commencé quand j'avais 5-6 ans, j'ai mes premiers souvenirs viennent de là. Et j'ai toujours eu ce rapport à la nature, un rapport fraternel. Je vais encore voir aujourd'hui les arbres que j'ai connus il y a 60 ans dans mon jardin de mon enfance, et je continue à leur parler, et quand j'arrive, ils me sourient. Je sens cette force, et je l'ai 60 ans de vie de cette relation. Puis après, voyant la nature détruite autour de moi, par l'augmentation de la ville, etc., je me suis révolté et je me suis engagé. Un militant, BDF, un peu de politique, je dis « Ah, allez, on va changer le monde ». Puis après beaucoup d'années d'activité de ce genre, je me suis dit « Mais il faut absolument que je cultive davantage ce qui m'a toujours accompagné, mais que l'action au front m'avait un petit peu empêché de vivre plus profondément, c'est retourner à ce rapport à la nature et y retourner par l'intérieur, par cette communion avec la nature ». Et en plus, cette expérience qui s'est développée, qui s'est intensifiée, qui m'a conduit aujourd'hui à méditer tous les jours, si possible dans la nature, parfois dans le tram, eh bien, c'est que j'ai retrouvé tout d'un coup ces dimensions. Alors, il y avait des dimensions tout à fait évidentes pour moi, la beauté de la nature, la paix, cette fraternité que j'avais avec la nature depuis toujours. Mais alors, certains d'entre vous vont commencer à prendre pour un cinglé, mais j'ai commencé à sentir de plus en plus fort et profondément la dimension spirituelle de la nature. Et par la méditation, alors non seulement, comme toute méditation, je m'apaise, je me libère un peu de tous mes soucis, mais j'entre tout d'un coup dans la communication avec une dimension extraordinaire qui m'arrive de ressentir même des fois, par surprise physiquement, une densité de spiritualité que j'aime bien appeler l'âme du monde, parce qu'elle est assez neutre spirituellement, on peut l'appeler Dieu, comme on veut, mais qui est en nous et qui est dans la nature. Et ça m'explique pourquoi, au fond, quand je suis dans la nature et que je médite ou que je me mets en situation de méditation, je me sens si bien, si intense, si fort, et qu'à travers cet exercice, j'ai pu surmonter toutes les difficultés de la vie. J'étais très malade, je suis encore d'ailleurs... j'ai eu des grandes difficultés personnelles, j'ai eu des difficultés au travail, et tout ça, je l'ai surmonté grâce à la méditation, je l'ai sublimé, et aujourd'hui, je peux dire, bien que vieillissant, bien que malade, eh bien, je vis les plus belles années de ma vie, parce que j'ai cette force, cette intensité, cette paix intérieure, et je commence à croire de plus en plus sérieusement que c'est peut-être à travers cet exercice, mais je crois que ça correspond beaucoup... ce qui a été brillamment dit par mes prédécesseurs, qu'on a une force de transformation du monde. Et voilà, c'est ce à quoi je m'attache maintenant et je suis heureux de pouvoir partager avec vous.
Quand ils sont bruns, est-ce que vous pouvez nous parler de vos expériences par rapport à la méditation dans la nature ? Est-ce que vous avez des expériences à ce sujet ?
De méditation, non, mais d'autres techniques, comme la transe, par exemple.
Voilà. Est-ce que vous pouvez nous en parler ?
Vous dire quoi ?
Qu'est-ce qui se passe quand vous êtes en transe ? Qu'est-ce que la nature vous apporte ?
Elle nous fait nous sentir plus grand. Elle nous donne notre véritable dimension. On est tout à coup plus grand que ce qu'on a l'habitude d'être, tout simplement parce qu'on s'ouvre en nous ce qu'on appelle l'intelligence perceptive et qui fait que tout d'un coup, on a accès à plus grand que ce qu'on a l'habitude de percevoir. La nature a ce don-là, en tout cas de calmer le mental, de calmer le petit vélo qui est là en permanence, pour nous permettre d'ouvrir cette intelligence perceptive et de nous dire « Ah oui ». Alors là, je suis une partie de tout ça est énorme, j'en suis une partie, mais aussi importante que l'ensemble. Je veux dire, il n'y a plus de notion d'ego dans cet état-là, et on a une notion de faire partie de, et ça c'est extraordinaire, parce qu'on a là aussi des sociétés qui nous enferment dans un ego, dans une individualité, qui nous sépare des autres. La pratique de la méditation, la pratique de la transe, la pratique de toutes ces techniques, ou même de la peinture, de la marche en forêt, tout ça fait que on va tout à coup, grâce à cette capacité qu'on a à avoir aussi une intelligence perceptive, on va se sentir ouvert, en lien avec la spiritualité. C'est ça, la spiritualité commence par la capacité à s'ouvrir à son environnement, à percevoir son environnement.
Donc la chamane que vous êtes au jour d'aujourd'hui, est-ce que vous pouvez parler à travers le chamanisme de la nature ?
Mais bien sûr, le chamanisme, c'est le respect, ça parle que de l'environnement en fait. Pour faire court, les esprits dans toutes les formes de chamanisme sont responsables du maintien de l'harmonie dans le monde. D'accord ? Donc si on crée une dissonance, quelle qu'elle soit, ça va les énerver, les esprits, évidemment, parce qu'ils travaillent pour que ce soit harmonieux, et voilà. Alors, ça va les énerver, et ils vont vous faire savoir que ça les énerve. Donc, écouter la planète, c'est ça aussi. C'est-à-dire, c'est être capable d'écouter ce que la nature nous dit, eux parlent des esprits, mais en fait, ce sont des informations de l'ensemble de cette harmonie qui nous dit, là, il y a une dissonance. Alors, les esprits vont te prévenir. Alors, comment ils vont te prévenir ? Ils ont plusieurs moyens de nous prévenir, mais l'un qui est à la portée de chacun de nous, c'est l'intuition. Voilà, l'intuition chez les esprits, c'est le langage qu'utilisent les esprits pour vous prévenir d'un danger, pour vous prévenir, pour vous dire que vous êtes en train de créer une dissonance. Alors, ceux qui écoutent cette intuition, ben oui, ils se disent « Ouh là là, je suis en train de faire une bêtise », on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors souvent, il y a des contraintes sociales qui font que ben, on continue quand même parce qu'on n'a pas le choix, enfin, on croit qu'on n'a pas le choix. Et donc, si vous continuez toujours à ne pas écouter vos intuitions ou à ne pas pouvoir l'écouter, eh bien les esprits vous envoient des problèmes. Ils commencent à s'énerver vraiment, ils vous envoient des problèmes et ils vous envoient de plus en plus de problèmes. Alors dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait quand on a énormément de problèmes ? On se dit « Ouh là là, j'ai fait vraiment une bêtise ». Mais comme on n'est plus capable d'écouter son intuition, ben on va voir un chaman en Mongolie qui lui a un outil, il a une arme fatale pour entrer en contact avec le monde des esprits, c'est la transe. Voilà. Alors la transe, c'est une technique que j'ai étudiée pendant des années, que j'ai soumise dans les laboratoires aujourd'hui, et qui montre que en fait, c'est un outil qu'on a tous en nous, qui est dû... la transe est un état qui est dû à une modification du fonctionnement du cerveau, qui apparemment nous permet d'ouvrir justement cette intelligence perceptive et de nous permettre d'accéder à des informations qu'on n'a pas dans un état de conscience ordinaire. Alors, c'est un peu comme si notre cerveau, dans un état normal, dans un état de pensée ordinaire, fonctionner à 16 bits secondes, c'était une bande passante, et il est capable de traiter 16 bits d'information à la seconde. Le corps, lui, est capable de traiter 10 millions d'informations à la seconde, et le cerveau à peu près 10 milliards d'informations à la seconde. Alors vous comprenez pourquoi le cerveau réduit quand même l'interface qu'on a là, elle nous permet d'avoir 16 bits secondes d'information. C'est pas beaucoup, mais c'est ce qui nous permet de répondre aux problématiques qu'on trouve dans notre vie. Mais il semblerait que le cerveau, tout en état de transe, nous permettent tout d'un coup d'accéder, pas à 16 bits secondes d'information, mais peut-être 100, 200, 300, ça n'a pas été évalué encore, mais que tout d'un coup, ils nous permettent d'accéder à davantage d'informations. Alors les chamans s'en servent, c'est-à-dire que si vous perdez vos clés, par exemple, nous, on va marcher hystériquement pour essayer de retrouver les clés, et eux, ben, ils vont dire, ben, on va faire une transe, on va demander aux esprits où ils sont. Mais ils sont fait marre, hein, les chamans, il ne faut pas croire. Hein. Donc ils vont à une transe, ils vont demander aux esprits où est la clé. Et l'esprit, si ce sont de bons chamans, l'esprit va vous répondre et va vous dire où est la clé. Bon, pareil pour retrouver des gens, pour retrouver... Donc le cœur technique, c'est ça. Voilà. Donc ça, on pense aujourd'hui, avec les études en neurosciences, que c'est dû justement à donc une transformation, ça on l'a démontré, que c'est une transformation de fonctionnement du cerveau qui nous permet d'accéder à plus d'informations. Donc ce que produit aussi la méditation, il y a eu beaucoup d'études aujourd'hui qui ont été faites sur la méditation, et tout ça tend à montrer qu'on a en nous des trésors que ces populations-là ont gardés précieusement, que nous on a un peu rejeté en pensant que ça servait à rien. Mais aujourd'hui, grâce à tout ça, à toutes ces initiatives, à ces recherches, on finit par se dire, ah, tiens, là on a un outil qui est quand même super intéressant.
Et vous-même, Michel Maxime Guerre, en tant qu'éco-psychologue, vous êtes favorable à la transe, au chamanisme ?
Alors, d'abord, je précise que je ne suis pas éco-psychologue. Je suis très intéressé à l'éco-psychologie, j'ai essayé de faire découvrir dans le livre, mais je ne me prétendrai pas éco-psychologue, je ne suis même pas thérapeute, je n'ai pas de formation en psychologie. Alors, le chamanisme et l'éco-psychologie, ce que j'aimerais d'abord dire par rapport à ce que Philippe vient de dire et Corinne, d'abord ce que ça révèle, qui est à mon avis extrêmement important, c'est au fond, ça pose la question, mais c'est quoi la nature ? C'est quoi la nature ? Est-ce que la nature, c'est uniquement une réalité d'ordre matériel ? Ce d'ailleurs à quoi une tradition occidentale, par la modernité, a réduit la nature, c'est-à-dire on l'a réduit à sa dimension matérielle, c'est-à-dire qu'elle est devenue un stock de ressources, un capital, un paquet de gemmes, à disposition de l'être humain pour le système économique, pour la satisfaction de, non seulement de ses besoins, mais de ses envies infinies. Donc là, est-ce que véritablement la nature c'est que ça, ou est-ce que la nature, certes, elle a une dimension matérielle, mais elle a aussi une autre dimension ? Une dimension d'intériorité, une dimension de conscience, une âme, une mémoire, est-ce qu'elle est habitée par des esprits ? Est-ce que le divin est présent en elle ? Et ça, je crois que ça nous montre qu'en réalité, il y a différents plans de réalité, hein, il y a le réel à différents niveaux, différents plans, et auxquels on peut effectivement accéder par des différents plans de conscience. Et comme je comprends aussi la transe, comme d'ailleurs la méditation, comme d'ailleurs la prière, c'est précisément de nous ouvrir pour pouvoir accéder à d'autres plans de réalité qui font que la réalité n'est pas réductible à ce que l'on voit simplement avec nos deux yeux, mais comme on dit, il y a le troisième œil qui est cet œil spirituel qui est à éveiller. Donc ça, je crois que c'est une dimension importante, parce qu'à partir de là, à partir du moment où on est dans la conscience d'une terre et d'une nature qui est habitée, qui a une dimension d'intériorité, qui est, de la tradition chrétienne à laquelle j'appartiens, on pourra montrer qu'elle est habitée même par les énergies divines, qu'elle est habitée par le divin. Eh bien, ça lui donne précisément une dimension supplémentaire, une dimension qu'on pourrait dire sacrée, qui nous invite d'autant plus au respect. Elle n'est pas juste à respecter parce qu'on en a besoin d'un point de vue utilitaire, puis qu'il faut un petit peu stopper l'usage abusif qu'on en fait, parce qu'effectivement, on en dépend sur le plan biologique et matériel, mais elle est aussi à respecter du fait qu'elle est plus que simplement cette dimension-là. Alors ça, c'est la première chose que j'aimerais relever par rapport à ce qui vient d'être dit, qui me paraît fondateur pour une écologie intérieure, pour une éco-spiritualité. Alors la deuxième chose, dans la tradition parmi les éco-psychologues, qui est une mouvance, c'est pas une nouvelle discipline de la psychologie, il faut vraiment le voir comme une constellation de praticiens, de théoriciens, un champ de recherche, eh bien on a un certain nombre d'éco-psychologues qui sont d'origine amérindienne, qui ont une formation chamanique, mais qui ont aussi fait une formation en psychologie et en psychothérapie, et qui essaie justement, en adaptant un petit peu les choses, d'utiliser ça pour travailler effectivement à des pratiques thérapeutiques, voire à aider les personnes à se reconnecter en profondeur à la nature. Et dans ce sens, eh bien, je crois qu'on pourrait dire, et là je pense que les éco-psychologues sont d'accord, Corinne a dit que d'une certaine manière, on ne peut, au fond, dans une perspective chamanique, soigner quelqu'un, c'est forcément le soigner en prenant en compte ses interrelations avec la nature, avec l'environnement. Parce que, en réalité, ça forme un tout. C'est une unité. Et c'est ça un des grands enjeux de l'éco-psychologie, c'est-à-dire, mais si on regarde toute l'histoire de la psychologie, on a d'abord été dans un moi qui était un moi unitaire fermé sur lui-même, avec des frontières bien définies entre ce que est le moi et ce qui n'est pas le moi. Ensuite, c'est vrai que depuis les années 60, on a ouvert, on a fait de la systémique, on a intégré la famille, on a intégré une partie de la société, mais on n'a pas encore véritablement intégré la nature pour concevoir ce qu'est le moi, la personne et les pratiques. Donc dans ce sens-là, j'aurais envie de dire, oui, d'une certaine manière, le chamanisme, c'est peut-être la première école d'éco-psychologie, la plus ancienne et la plus historique.
Merci. J'aimerais approfondir un petit peu, reparler des arbres, plus particulièrement avec vous, Thomas Bizère, baptisé Narei Kapamid. Dites-nous ce que... Traduisez-nous ce que veut dire
Narei Kapamid. Narei Kapamid, c'est un des noms qui m'a été donné par la tribu des Souris. Ça veut dire le grand pilier, en pensant à un grand tronc d'arbre, qui protège par son ombre. Parce que dans la forêt, l'ombre protège et toute la végétation qui est en dessous, vu la force du soleil. Ce nom m'a été donné par le chaman des Souris et à cause de l'action que j'ai menée pour aider ce peuple à sauver sa forêt. Je voudrais aussi rebondir un petit peu sur ce que vous venez de dire, que dans ces... Moi, je parlerais d'évolution de conscience, en fait, qu'on voit... autant dans notre société que dans la société des Souris, qui, pour vous donner une idée, ça fait 45 ans qu'ils ont rencontré notre civilisation et qu'ils ont dû passer d'une civilisation qui habitait la forêt sans aucun contact avec aujourd'hui des iPhones et ayant décidé de se conformer à notre monde. Narei Kapamid, eh bien, je suis très fier d'avoir pu porter, qu'on m'ait donné ce nom, en fait. Ça me sort beaucoup d'émotions. Hein. Et en fait, c'est venu aussi du fait que cette prise de conscience sur la forêt, eh bien, elle nous donne un sentiment, elle amène à un sentiment de responsabilité par rapport à notre planète, et justement, comme vous l'avez dit, pas simplement de responsabilité par rapport à un environnement dont nous avons besoin, mais vraiment en tant qu'être humain, en tant qu'être les plus développés, on pourrait dire, de cette planète, eh bien, nous sommes responsables du royaume minéral, du royaume végétal et du royaume animal. On parle des arbres beaucoup parce que c'est l'action que nous menons avec les Souris qui est la plus visible, mais nous protégeons tout un écosystème, nous protégeons des animaux, nous protégeons les esprits de la forêt. Juste pour vous donner un exemple, quand on replante certains des arbres que les Souris ont décidé de replanter dans leur forêt, eh bien, ce sont des arbres qui sont imprégnés d'esprits particuliers et qui, quand ils ont été coupés, eh bien, tous ces esprits sont partis. D'autres arbres, on les replante pour que certains singes reviennent aussi parce qu'ils veulent, ils goûtent particulièrement les fruits de ce type d'arbre. D'autres arbres sont plantés parce que, bien sûr, ils sont utiles à l'être humain, mais aussi parce que d'autres arbres pourront pousser dessous par la suite. Donc on voit que cette relation, eh bien, elle est à tous ces niveaux-là. Et les Souris, eux, ne l'ont pas oublié ancestralement, ils l'ont amené avec eux. Ils essayent de ne pas l'oublier non plus en contact avec notre société. Et ils essayent, en fait, de faire un pont, en fait, entre une spiritualité qui vient du fond des âges dans la forêt et notre monde moderne. Et à ce niveau-là, eh bien, je pense que vraiment, on s'y retrouve. Même nous arrivons à le comprendre. Et ils arrivent à donner un message au monde entier dans ce sens-là.
Merci. Corinne Sombrin, est-ce que vous pouvez nous raconter quelques anecdotes pour les arbres manquants ?
Alors, je vais vous raconter une histoire d'arbre, d'accord. Alors, je vais raconter l'histoire de Jacob, que Camille m'a racontée. Et un jour, un guerrier... Alors, on parle de la tribu sur lui. Et autrefois, ils étaient une dizaine de clans, donc ils se battaient un peu entre clans, malheureusement. Et un jour, un chef de clan décide d'aller attaquer le village de l'autre clan. Alors il part avec ses guerriers, et puis il se repose un moment, il s'installe sous un grand pacob, qui est un arbre donc, et il commence à affûter les flèches, à se préparer, et l'arbre se met à parler, parce que les arbres parlent là-bas. Alors voilà, et l'arbre dit au chef, au guerrier, il lui dit « Mes enfants, où allez-vous ?» Le guerrier le regarde, et puis... probablement assoiffé par son désir de vengeance, il répond pas. Et il emmène ses guerriers attaquer l'autre village, et ils sont tous tués. Alors la question derrière cette histoire, c'est est-ce que nos dirigeants à nous aujourd'hui, avec leur soif de profit, ne font pas un peu comme ce chef guerrier? Est-ce que s'ils rencontraient un pacob aujourd'hui, si l'arbre voulait bien leur parler, hein, est-ce que s'ils leur posaient la question « Mes enfants, où allez-vous ?» Est-ce qu'ils auraient le courage de répondre? Est-ce qu'ils auraient le courage de se poser la question d'un avenir, comme nous devons faire? Parce que c'est ça qu'il faut se poser aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on veut comme avenir? C'est ça que demande l'arbre. C'est « Mes enfants, où allez-vous ? » C'est « Qu'est-ce que vous voulez comme avenir ?» Et pour définir un avenir, il faut déjà avoir une idée de quel avenir on veut. Donc cette question, elle est fondamentale. Et dans la vie des survies, dans l'histoire des survies, c'est une question qui est fondamentale. Et ce qui peut expliquer aujourd'hui que Almir a une vision à long terme des choses. Et que ce qu'il a construit dans son village, sur son territoire, c'est un modèle de gestion de la forêt sur 50 ans. Il a compris que le nerf de la guerre, c'était l'argent. Oui, il a compris. Et il s'est dit, bon, ben, puisqu'il faut qu'ils gagnent de l'argent, je vais leur démontrer qu'il est plus rentable de garder la forêt sur pied en exploitant durablement ses ressources que de la détruire. Ça, c'est un langage que les Occidentaux peuvent comprendre et que les exploitants forestiers peuvent comprendre. Alors il a dit, ben, moi, je vais vous montrer l'exemple. Parce que c'est vrai que pour rétablir la connexion entre le concept intellectuel et l'émotion, il faut trouver un moyen de... Parce que c'est vrai qu'on s'en fiche de ce qui se passe en Amazonie, donc ça ne nous concerne pas. Alors lui, il a dit, ben, j'ai compris ça aussi. Mais ce que je dois faire, c'est montrer l'exemple. Et en montrant l'exemple, je vais donner envie, en montrant que ça marche, je vais donner envie aux autres tribus autour de nous de faire la même chose. Voilà, donc une des réponses à comment retrouver le lien entre l'intellect et le cœur, c'est de donner envie aux autres, donc de montrer l'exemple déjà, et de donner envie aux autres de reproduire ce modèle parce que ça marche, parce qu'on trouve ça beau, parce qu'on a envie, on voit que c'est rentable, si c'est ça le but, et on a envie de le reproduire.
Philippe Roch, vous parliez que pour méditer, la nature est importante. Hein. Parlez-nous des cinq dimensions, justement, des endroits privilégiés.
Oui, j'ai développé cette petite idée à l'expérience, puis un peu pour rejoindre cette réflexion, notamment comme écologiste engagé depuis longtemps. Peut-être un des premiers, enfin, parmi les premiers écologistes politiques qui ont voulu faire la politique pour l'écologie, j'ai quand même constaté peu à peu, et c'est évoqué aussi par Michel Maxime, que si on fait une écologie purement utilitariste, on ne va pas très loin. On dit, voyez, on faut protéger pour avoir de l'eau, de l'air, c'est important, c'est bien, mais on voit que cette idée, elle est emportée par cette folie, je dirais, de la croissance ou l'hubris. Et qu'à ce moment-là, ça ne suffit plus. Et par conséquent, si on veut vraiment augmenter le niveau de conscience de notre appartenance à la nature, notre fraternité avec la nature, il faut aller chercher plus loin. Alors l'image m'est venue au pied de mon arbre, là, où je médite tous les jours. Je dis, mais voilà, on peut avoir une relation économique avec un arbre. C'est-à-dire que c'est quoi ça? C'est du bois, on peut produire des fruits éventuellement, etc. Donc il y a une valeur. Mais une valeur économique, et d'ailleurs, les écologistes ont essayé de donner une valeur aux choses, une valeur monétaire. Alors, c'est la valeur économique. Puis après, il y a la valeur, ou la dimension, je dirais, je ne sais pas si je les ai dans l'ordre, c'est égal, mais plus émotionnelle, hein, ou esthétique. Un arbre, c'est beau, je crois, presque tout le monde dira ça. J'ai rencontré même des gens qui pensaient à autre chose que la valeur du bois, mais ils sont quand même assez rares. Alors c'est la dimension esthétique, ça nous pousse déjà, ou ça nous descend déjà un peu vers le cœur. Hein.
on a une relation presque affectueuse avec, avec l'arbre, et c'est un pas, je crois, important dans la recherche de cette connexion entre toutes les dimensions. Et puis la troisième, c'est la dimension écologique. C'est déjà une réflexion plus importante. C'est pas juste la valeur du bois, mais c'est se dire, oui, cet arbre, il est important parce qu'il crée de l'humus, il filtre, permet à l'eau d'être filtrée, il protège contre les changements climatiques. Enfin, toutes les fonctions de l'arbre et de la forêt, c'est déjà aussi une dimension toujours rationnelle, mais un peu plus large de cette valeur. Et après, il y a encore une dimension que j'ai appris philosophique, qui est plutôt dans le symbolisme, hein, on a beaucoup utilisé René Guénon et d'autres, Jung aussi bien sûr, tout ce que l'arbre représente comme archétype de notre relation avec la nature, et on peut en sortir des théories. Puis la dernière dimension, la plus étendue, c'est cette dimension spirituelle, et une fois qu'on a pris conscience de cette existence, comme je vous l'évoquais tout à l'heure, alors tout d'un coup on pénètre dans un monde beaucoup plus vaste, est beaucoup plus riche, et ensuite on se sent totalement uni à ce monde-là, puisque c'est le même esprit qui nous unit tous. Et dès ce moment-là, vous ne pouvez plus considérer un être vivant ou même un caillou de la même manière. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas l'utiliser, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas jouer votre rôle dans ce monde, mais vous ne considérez plus la même chose. Et c'est le sentiment de sacralité qu'évoquait Michel Martin qui paraît important. Hein, sacré, ce n'est pas juste dire je fais un truc autour, on ne touche pas. Et c'est qu'il y a une valeur tellement profonde aux choses qui nous connecte aussi avec ces choses qu'on ne peut plus les considérer simplement comme des objets.
Allez-y.
Oui, puisqu'on parle de l'arbre, j'ai juste envie d'ajouter quelque chose. Parce que c'est aussi à ce que vous avez dit à propos de cet arbre qui pleure, la forêt à Neuchâtel, un petit peu faire le lien dans tout ce qu'on a dit. Alors, c'est vrai que il y a la transe qui est un moyen pour justement nous connecter à d'autres niveaux. Là, en fait, cette personne avait senti et perçu que cet arbre pleurait. Et ça, c'est très important pour les éco-psychologues, c'est en fait comment on va interpréter les rêves. Et là, il y a des champs extrêmement intéressants en lien avec cet inconscient écologique dont j'ai parlé. C'est-à-dire de dire, mais bon, dans la tradition psy, en fait, habituelle, on a le plus souvent interprété les rêves en les ramenant simplement à l'être humain. C'est-à-dire que si on a des éléments de nature, et on a beaucoup d'éléments de nature qui apparaissent dans nos rêves, même qu'on a parfois des catastrophes naturelles, mais on a des arbres, on a des animaux, on a des plantes. Alors, traditionnellement, on les interprétait, que ce soit dans la tradition freudienne ou jungienne, comme des symboles, très souvent, de réalités intra-humaines qui ont à voir avec notre passé, avec notre histoire, avec nos refoulements, avec tout ce qu'on veut. Et là, les éco-psychologues disent, et là, on peut faire le lien vraiment avec une tradition chamane, mais si, certes, ça peut être ça, mais si c'était aussi, en fait, le chemin qui était utilisé par l'arbre ou les arbres, avec l'esprit des arbres, pour dire quelque chose à l'être humain. Et à ce moment-là, les arbres ne sont pas simplement des symboles qui nous parlent de nous-mêmes, à interpréter selon une catégorie à nous, humaines, mais c'est peut-être aussi les arbres disent quelque chose d'eux-mêmes et de leur réalité, et utilisent le chemin du rêve, vous parlez de l'âme du monde, et bien en réalité, l'âme du monde, c'est une psyché qui dépasse notre psyché individuelle, qui est une psyché cosmique, et qui nous permet de nous relier à ça, et à travers le rêve, eh bien, les êtres de la nature sont peut-être aussi en train de nous dire quelque chose, et là on entre dans une toute autre approche d'interprétation des rêves, extrêmement passionnante, et qui peut être très stimulante pour notre engagement écologique.
Alors ça nous amène au prochain thème, si vous pouvez l'aborder rapidement, les animaux. Vous parlez des animaux qui, Philippe Rome, que ça inspire, qu'ils inspirent la méditation. Et après, Corinne Sondra, j'aimerais bien que vous puissiez nous raconter la petite histoire du colibri.
Ah oui. L'histoire du colibri. Qui la connaît pas ici, l'histoire du colibri?
Ah ben non, c'est toi d'abord.
Bon, ouais.
Allez, qui connaît pas l'histoire du colibri? Ah, il n'y en a pas beaucoup, hein, quand même. C'est bien. Alors un jour, c'est une histoire qui est chez les surhuits aussi. Le colibri, Thomas a été confronté à lui dès son premier voyage chez les surhuits. Et il a eu la chance d'en voir un très très beau. Voilà. Pour les surhuits, c'était un signe de bienvenue et de chance dans leur relation future. Alors, le colibri, ben, le jour, il y a un grand incendie. Voilà. Alors, tous les animaux s'en vont, et il y a un petit colibri qui va prendre de l'eau dans son bec et qui va mettre de l'eau sur l'incendie. Et puis il retourne, et puis il remet de l'eau sur l'incendie. Alors un animal lui dit, je ne sais plus lequel, lui dit, enfin, colibri, tu ne penses pas que tu vas arrêter l'incendie juste avec ta petite goutte d'eau comme ça? Il a dit, peut-être pas, mais moi, au moins, je fais ma part. Voilà. Donc c'est l'objectif des survies aussi. Il sait très bien qu'au niveau national, au Brésil, il ne va pas changer tout de suite la norme qu'applique le gouvernement, mais il fait sa part. Et petit à petit, ce que je vous disais tout à l'heure, il montre l'exemple. Et en montrant l'exemple, ça donne envie à d'autres de reproduire cet exemple, parce que ça fonctionne. Et à force de montrer l'exemple, eh bien aujourd'hui, il s'est passé une chose assez extraordinaire quand même, c'est que les éleveurs, vous savez, les éleveurs en Amazonie, ce sont les pires déforesteurs, parce que pour élever, il faut déforester. Et bien, il a réussi à mettre en place un label pour lequel les éleveurs s'engageraient à élever sans déforester. Donc la viande porterait un label, voilà. Donc c'est quand même extraordinaire.
Et vous, Philippe Proc, vous voulez parler rapidement de la méditation par rapport aux animaux?
Oui, les animaux, ça fait partie de l'ensemble de la nature, il n'y a pas de spécificité, sauf que, effectivement, dans la rencontre avec les animaux, on a peut-être un certain nombre de choses qui se passent, qui nous ressemblent plus, il y a des réactions. Alors, c'est un vaste sujet, les animaux. Il y a une chose que j'ai envie de vous dire, c'est puisqu'on a beaucoup parlé de conscience au début de cette discussion, que moi, j'ai toujours été convaincu que les animaux ont une conscience, bien sûr, mais c'est très important d'essayer de communiquer avec eux et de se rendre compte de cette conscience. Et Robert Hénard, qui est vraiment mon maître de philosophie, j'ai écrit un livre sur sa pensée, le penseur paléolithique, ça nous rejoint avec l'époque première. Et bien lui, à un moment donné, il fait tout un développement sur la conscience des animaux. Mais à un moment donné, il s'essaye à définir des niveaux de conscience, est-ce que l'humain, le seul avoir une conscience, etc. Et puis à un moment donné, il dit, parce qu'il est un observateur des animaux, il est toutes les nuits dans les forêts les observer, et il dit, mais le regard du renard me trouble. Et je pense à ça souvent quand je vois un animal, je suis beaucoup avec les chevaux, puisque ma fille fait de l'équitation, et encore ce matin, je sors de son concours, je vois son cheval, je vais vers sa tête, je pose la main sur la joue, et il me regarde comme ça, avec cet œil magnifique du cheval. Et vous ne pouvez pas penser que c'est juste une bête, c'est pas ça, c'est beaucoup plus que ça. Et alors, quand on a la chance de développer cette sensibilité, cet échange réel avec les animaux, je crois qu'on vit plein de choses. Et ça, encore une fois, l'animal, les mammifères sont plus proches de nous, mais tous les animaux méritent notre attention, notre respect. Et ils nous disent beaucoup sur notre communauté, sur notre famille, sur nos frères et nos sœurs. Même le pape François a dit ça aujourd'hui. Alors, il y a encore de l'espoir.
J'aimerais maintenant aborder un autre thème, le rôle des femmes par rapport à la nature. Et pour ça, je laisse la parole à Michel Maximeguer.
Grand spécialiste.
Surprise.
Ça, c'est la grande question. Ce qu'on peut dire, et ça c'est quelque chose qui est très très important pour les éco-psychologues. Finalement, les éco-psychologues, je disais, ils ont réfléchi sur quelles sont les racines de la crise écologique et les racines de cette déconnexion par rapport à la nature. Alors, suite à toute une histoire, ils en arrivent à ce qu'on a appelé le paradigme de la modernité occidentale, qui s'est au fond cristallisé à la fin du XVe siècle, qui est un paradigme extrêmement dualiste. C'est-à-dire que l'homme, finalement, s'est posé en extériorité par rapport à la nature. Il s'est posé dans une position, la nature, elle est à l'extérieur de lui, c'est pour ça qu'elle devient un environnement, d'ailleurs. Et il se pose également en position hiérarchique par rapport à la nature, et puis c'est dénaturé, c'est-à-dire qu'il est devenu un être hors sol. Alors il n'y a pas que ce dualisme-là, il y a aussi le dualisme entre l'esprit et la matière. Je parlais tout à l'heure, justement, d'une nature réduite à sa dimension de matière. On a séparé la dimension intérieure et la dimension extérieure. Et parmi tous ces dualismes, il y en aurait encore beaucoup d'autres, Jung parlerait du dualisme entre la conscience et l'inconscient, il y a le dualisme entre le féminin et le masculin, entre l'homme et la femme. Et là, il y a, chez les éco-psychologues, tout un courant, des éco-féministes, qui qui, au fond, font une analyse de l'évolution de la société occidentale, en montrant que non seulement le monde occidental était très anthropocentrique, c'est-à-dire l'être se place justement dans la puissance au milieu de tout, mais aussi très androcentrique, c'est-à-dire qu'au fond, ce sont les principes masculins, c'est au fond l'ego patriarcal qui s'est beaucoup mis dans une position de domination et de pouvoir, avec des grands déséquilibres. Et d'ailleurs, il montre, avec toute une série d'exemples historiques, qu'il y a d'une certaine manière une corrélation entre l'oppression de la nature, la destruction de la nature, et l'oppression des femmes. Et un bon exemple, eh bien, c'est la persécution des sorcières. Qui ont été décimées par milliers. Les sorcières étaient en l'occurrence des femmes qui étaient des formes de chamanes de l'époque et qui avaient une connaissance très très profonde de la nature, et notamment de ses pouvoirs et de ses pouvoirs de guérison. Donc là on a quelque chose de symboliquement très fort, et je crois qu'un des grands enjeux, alors je ne parlerai pas forcément de la femme, mais peut-être de la femme en tant que, on pourrait dire spontanément, ou organiquement, ou naturellement, quoi qu'il fallait mettre des grands guillemets par rapport à tout ça, peut-être plus porteuse des valeurs féminines. Et je crois que ce vers quoi, enfin, des grands défis en matière d'écologie, c'est d'arriver à retrouver cet équilibre dynamique, on pourrait passer même une forme de danse comme entre le yin et le yang, entre le féminin et le masculin. Et là, on parlait d'écouter la planète, et bien l'écoute, c'est typiquement une de ces qualités féminines qui a été retrouvée. Tu as parlé de l'intuition, c'est aussi une des qualités féminines. On pourrait parler de la coopération, on pourrait parler de différentes qualités qui sont pour moi des qualités féminines et qui sont précisément qui sont là pour contrebalancer cette domination énorme qui est donnée à des qualités justement de domination, de conquête, de pouvoir, de rationalité abstraite et qui en fait sont en réalité les en guillemets qualités qui caractérisent le système économique dominant qui détruit la planète.
Corinne Sombrin, en tant que femme présente à cette table ronde, quel est votre avis
sur le rôle de
la femme dans la nature?
Dans la nature,
ben, je ne sais pas. Hein. Autant que celui de l'homme, voilà, elle a ce rôle. Oui, il y a autant de chamans hommes que femmes. Il n'y a pas de. C'est un don. Pour les Mongols, le chaman est désigné par les esprits, là encore. Donc ils n'ont pas choisi plus d'hommes que de femmes.
Égalitaire.
Ben voilà, oui.
Parfait. Maintenant, le rôle des. On passe à un autre thème, le rôle des réseaux sociaux. Donc, dans votre livre, Corinne Sombrin, vous parlez de Google Earth. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ce qui s'est passé avec Amir et Google Earth?
Oui, alors ça, c'était intéressant parce que Amir est le premier de sa tribu à pouvoir. Il est allé à l'université, il a suivi des études et il a eu accès, bien sûr, au logiciel et à Google Earth. Et qu'est-ce qu'on fait tous quand on est sur Google Earth? Qu'est-ce qu'on fait? On va chercher là où on habite, voilà. Toujours. On va tous pointer, on va se dire, voilà, moi je suis là, et qu'est-ce qu'on voit sur Google Earth? Et bien Mir, il a fait pareil, il a pointé sur son territoire, sur son village, son territoire d'abord, et puis il a vu qu'il était écrit « territoire inhabité ». Mais merde alors, il s'est dit « et nous ?» Et nous ? Alors un jour, il avait un contrat de 100 000 dollars sur la tête parce qu'il empêchait les exploitants forestiers de déforester. Alors ça les énervait, bien sûr. Donc il a un contrat qu'il a toujours depuis, mais bon. Donc il a été évacué en Californie et il savait très bien que Google, c'était en Californie. Donc il s'est dit, tiens, je vais leur dire deux mots à cela. Et donc la personne qui l'accompagnait passait près du siège de Google et puis Almir a dit... Prends un rendez-vous avec Joël et les voir. Et donc son copain lui a dit, ben voilà, tout ce que tu vas obtenir, c'est la porte. Hein, moi, je te le dis tout de suite. Et il a dit, non, je veux aller les voir parce que, voilà, bon, écoute, je vais essayer. Donc il a obtenu un rendez-vous quand même, le copain, avec Rebecca Moore, qui est la responsable de Google Earth Outreach, qui est la branche humanitaire de Google Earth. Et elle l'a regardé de haut quand le jour du rendez-vous, elle a dit, bon, bah, écoutez, Amir est arrivé avec son copain. Et il lui a dit, bon, vous avez 30 minutes. Hein. Alors, Almir commence à expliquer, et puis 31 minutes, 32 minutes, en 3 minutes, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, il était toujours dans le bureau de Rebecca Moore. Et non seulement il est dans son bureau, mais elle était allée chercher tous les autres directeurs de département, dont celui de Google Earth. Et alors là, il n'a pas loupé, Almir, il a dit alors, pourquoi il y a écrit territoire inhabité là? Alors, il y a eu un grand silence dans le bureau, paraît-il, où le directeur a dit Et je lui dis, nous, on habite là, hein. On a une histoire, on a tout ça, on a une culture, on a pourquoi ces territoires. Il s'est excusé, il a dit, on va corriger l'erreur. Donc Google s'est engagé à corriger cette erreur. Et non seulement ça, ils ont, après, avec les survies, ils ont réussi à obtenir que Google leur envoie des ingénieurs pour les former à ces logiciels. Et pour leur permettre de surveiller la déforestation en direct. Ce qui fait peur aux exploitants forestiers parce qu'ils pensent qu'ils sont surveillés pendant qu'ils déforestent. Alors voilà, ça a créé.
Et maintenant, si vous allez sur Google Earth voir la région où les souris habitent, vous verrez que la forêt des souris qui fait la surface de Genève et de Vaud, eh bien, non seulement elle existe, pour le corps en tant que territoire souris, mais en plus elle est en 3D aujourd'hui.
Ouais. Elle pousse.
Elle a aussi poussé.
Alors on va devoir bientôt terminer cette table ronde. Avant qu'il y ait la possibilité de quelques questions, j'aimerais conclure avec cette question. L'homme va-t-il sauver la planète ou la planète va-t-il sauver l'homme ? Qui est-ce qui veut répondre?
Pour faire vite. Il n'y a que la planète qui peut sauver l'homme et pas l'inverse. C'est évident, je crois que c'est évident dans toutes les présentations. Okay. Allez à l'intérieur de vous-même. Osez vivre votre amour de la nature. Osez vous écouter l'âme qui est au fond de vous. Faites fonctionner votre intuition. Ayez confiance dans votre intuition. Et tous ensemble, nous allons arriver à permettre à la planète de nous sauver.
Un grand merci à vous quatre. Et maintenant, est-ce que vous avez quelques questions au jour d'aujourd'hui? Allez-y.
J'attendais la dernière question. Alors, depuis une heure, je trouve votre conférence de la philosophie merveilleuse, surtout pour moi-même. Mais comment vous voulez transmettre votre philosophie aux guerriers orientaux, aux nazis de l'Allemagne, aux problèmes des industriels? On peut faire exemple comme personne individuelle, mais pour le monde entier, je ne vois pas une grande solution.
Qui est-ce qui veut répondre? Allez-y, Thomas Bizet.
Je me suis souvent senti un peu comme un Don Quichotte de la forêt amazonienne. Quand je l'ai survolé pour la première fois, quand vous faites 6 heures de vol sans voir une seule ville, vous m'avez dit, puis nous on veut venir reforester ici. Qu'est-ce que je fais ici? C'est tellement énorme, c'est tellement plus grand, c'est tellement trop grand pour moi, pour nous, pour... Non, moi je pense que la seule manière de changer le monde, c'est de donner l'exemple. Et après, le reste du monde va prendre ce qu'il voudra de ce que nous avons proposé, de notre exemple, etc. Les souris pensent à la même chose. Et je dois dire que depuis 10 ans que je travaille avec eux, aussi bien sûr grâce à ce livre, dont nous commençons à avoir beaucoup d'écho, je vois qu'en effet, on peut semer une graine, qu'on peut donner un exemple. Les Indiens chez eux, ils donnent un exemple qui commence à être suivi par des dizaines d'autres tribus. Certaines des développements qu'ils ont faits sont en phase de devenir des politiques publiques du Brésil. Des choses que nous n'aurions jamais imaginées quand nous avons démarré. Donc je pense que c'est très important cette notion de pourquoi on fait les choses malgré le fait que ça paraît tellement énorme qu'on pense qu'on n'arrivera à rien changer. En fait, les choses se font simplement, j'aurais tendance à dire par mimétisme. On prend exemple, on donne exemple. Et peut-être que notre rôle il est simplement là, c'est justement de donner l'exemple avec chacun, avec les capacités que l'on a.
Oui, ah ben ça marche pas. Oui, parce qu'à force de montrer l'exemple et à force de donner envie aux autres de reproduire cet exemple, ben ça se diffuse et on en vient à changer la norme. Moi, je me souviens en 61, quand je suis née, mais juste un peu après, les notions d'écologie, ça n'existait pas. C'était très peu, à part chez les hippies, bon, c'était un mouvement. Voilà, mais ça n'existait quasiment pas. Et aujourd'hui, je vois la prise de conscience qu'ont les jeunes, le ramdam qu'on fait autour de la COP21, tout ce que. Aujourd'hui, l'écologie, c'est devenu un problème de société, c'est devenu quelque chose de vraiment important. Donc les gouvernements, justement par la masse qui a changé sa donne. C'est-à-dire que pour l'ensemble de la population, c'est important aujourd'hui, elle veut des réponses. Et les gouvernements, du coup, se sentent obligés de répondre à... Parce que les gouvernements, ils veulent des votes aussi. Donc les gouvernements se sentent obligés parce que la norme a changé, parce que la population les pousse. Et c'est en ça que chacun de nous a un rôle important, même si ça nous paraît énorme. Et bien chacun de nous, à notre petit niveau, on a un rôle important parce qu'on change la norme. Et quand la norme a changé, on pousse les gouvernements. Et bien oui, ils se trouvent bêtes, parce que tout d'un coup, ils ne sont plus dans la norme qui sont autour d'eux. Donc ils sont obligés de faire des choses. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai remarqué depuis les années 60, c'est qu'aujourd'hui, la norme a changé. Et ça, c'est important. Et c'est vraiment ce qu'on peut faire au niveau individuel.
Est-ce qu'il y a encore une question? Profitez, il nous reste quelques minutes sur ce large débat.
Oui, par exemple, dans notre pays, on a changé la norme, on ne veut plus de centrales nucléaires, alors ça c'est formidable, on a pris conscience petit à petit qu'il ne faut plus de centrales nucléaires, et puis il faut remplacer par quelque chose. Oh, mais je veux pas d'éoliennes sur mon village ou dans un... Mon paysage, ça va être catastrophique. Surtout pas d'éoliennes. Non, 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 rien. Non, non, faut pas d'éoliennes. Donc, voilà, faut pas d'éoliennes. Ensuite, on dit, ah, mais il faudra peut-être faire une retenue d'eau, utiliser cette chute d'eau, etc. Ou non, les pauvres poissons, c'est malheureux, les poissons de mon village, etc. Non, il faut pas ça, en tout cas, non. Ensuite, on dit, oh, il y a peut-être de l'énergie sous terre, ou faire des forages sous terre, c'est très mauvais ce qu'il y a sous la terre. Il ne faut surtout pas, en tout cas, dans mon village, on ne fera jamais un forage pour essayer de trouver de la chaleur sous terre, parce que c'est très vilain ce qu'il y a sous la terre. Donc, voilà, c'est des langages qu'on entend actuellement. Alors, peut-être vous avez d'autres solutions pour remplacer l'énergie nucléaire.
En gros, tant qu'on est dans une logique de croissance et de poursuite de l'avoir, du paraître, on n'a pas de solution. Alors, même si, Dieu sait si je suis en faveur de l'abandon du nucléaire qui n'aurait jamais dû commencer à cause des risques inimaginables de cette technique, je pense qu'il faut l'aborder de toute façon. Après, comment faire? Encore une fois, si nous n'arrivons pas à changer de paradigme et à changer de valeur et à chercher notre bonheur beaucoup plus vrai, plus simple et plus profond dans une relation entre les humains et avec la nature, et finalement de chercher au niveau de la consommation et de l'avoir ce dont nous avons besoin et pas plus, nous serons beaucoup plus riches, nous serons beaucoup plus heureux et nous aurons autour de nous une nature intacte et nous n'aurons besoin certainement pas de toutes ces techniques dans la dimension que l'on nous propose aujourd'hui. Mais bien sûr, on ne peut pas refuser un certain confort. Mais si on ne change pas de logique, on va être de toute façon foutu. Et je pense que la résistance contre un certain nombre de projets, parler de l'éolien, qui est peut-être l'exemple le plus parlant aujourd'hui, il faut voir pas seulement l'extérieur de cette résistance, mais moi je pense que beaucoup de ces gens que j'ai rencontrés, bien sûr, ont eux une intuition et ils sentent que nous avons besoin de cette nature, qu'elle est déjà sous pression et que si on augmente la pression sur la nature, on résoudra peut-être le problème du fer à repasser et puis de la voiture électrique et de la pompe à chaleur, mais on n'aura pas résolu le problème fondamental de cette civilisation qui est cette coupure que nous avons créé avec la nature et ce besoin que nous avons de nous réconcilier avec elle, qui est la première priorité aujourd'hui, que je ne trouve malheureusement dans aucun programme politique. Mais voilà, on ne désespère pas parce que nous sommes les colibris qui, un jour ou l'autre, arriveront peut-être à faire changer les choses.
Et pour clore le débat, Michel Maxime-Guerre.
Bon, j'aimerais juste.
Le mot de la fin.
Ouais, d'accord. Donc, je vais essayer du coup de faire la synthèse par rapport à votre question et à la question qui a été posée précédemment. Et Philippe, tu viens de parler de changer de paradigme. Et en fait, c'est bien ça l'enjeu. C'est pas simplement de trouver des solutions techniques, politiques, à des problèmes écologiques isolés ou partiels, mais on est vraiment avec un grand enjeu qui est de changer de paradigme. Tu as cité le pape, on peut le reciter, il parle, lui, de révolution culturelle majeure. Alors, simplement par rapport à ça, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que changer de paradigme, c'est quand même quelque chose d'assez complexe, qui prend du temps. Et si on veut changer de paradigme, il faut agir sur comme on a les différents plans de réel, eh bien là, on a différents niveaux d'action et d'engagement. En fait, dans tout problème, si on veut changer de paradigme, il y a une dimension intérieure et une dimension extérieure, il y a une dimension individuelle, personnelle et une dimension collective. Alors, très rapidement, c'est 30 secondes, la dimension intérieure collective, c'est, on pourrait dire, les systèmes de valeurs, nos systèmes de représentation, transmis en particulier par l'éducation, hein, c'est quoi la nature, comment on regarde la nature, c'est nos modes de connaissance, hein, avec quoi on va connaître les choses, et voilà. Ça, c'est en fait ce qu'on pourrait dire le collectif intérieur. Le collectif extérieur, c'est tout ce qui a à voir avec les institutions, avec l'État. Alors on a parlé des politiques publiques, c'est les politiques d'entreprise, c'est tout l'aspect des technologies, etc. Il faut aussi agir à ce niveau-là, et il ne faut pas abandonner ce niveau-là. Il faut être présent à la COP, à Paris, pour aussi faire entendre notre voix, et comme dit un psaume, ne pas laisser le monde aux mains des méchants. Troisième niveau, c'est en fait l'individuel intérieur, et bien ça c'est tout ce travail de conscience, ce travail spirituel qu'on a évoqué beaucoup, cette reconnexion en profondeur personnelle avec la nature, et puis vous avez ensuite l'individuel extérieur, et bien c'est les modes de vie, c'est les modes d'existence, c'est la manière de consommer, c'est la participation aux alternatives qui sont en train de se développer, Pierre Ravi a parlé hier soir. Et le grand défi pour changer de paradigme, c'est que ces quatre, en fait, plans sont importants. Et la question, c'est comment on articule tout ça. Et en réalité, on arrivera à un changement de paradigme qu'à partir du moment où on mettra tout ça en boucle et qu'on créera des dynamiques entre tous ces plans. Donc, il n'y a aucun niveau qui doit être abandonné. Et puis, à chaque niveau, eh bien, chacun, là où il est, peut faire sa part de colibri avec ce qu'il est, les conditions dans lesquelles il vit.
Il y a du vouloir.